Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Exceptionnellement, l'émission pour la dignité a lieu ce lundi 21 janvier, parce que l'actualité prime. Bonjour Régis Coulange, bonjour Claude Braun.
Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous.
Alors, vous avez carte blanche, allez-y.
Voilà, donc on a avancé l'émission d'une semaine. Parce que ce vendredi, vendredi 25, nous avons une grande soirée dans la salle René Char à Digne-les-Bains. Grande soirée pour fêter les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en même temps fêter les 40 ans d'existence du groupe d'Amnesty International de Digne-les-Bains. Et donc j'ai invité Claude Braun, bien connu de tous les Dinois. Non seulement parce qu'il va intervenir en tant que poète sensible aux droits humains dans notre soirée, mais en même temps parce qu'il a été un des fondateurs du groupe d'Amnesty International de Digne en 1978, c'est-à-dire à la suite du prix Nobel de la paix qu'a reçu notre organisation. En 1977, il y a énormément de groupes qui se sont créés à cette époque-là, dont le groupe de Digne, qui est le numéro 166. Donc, c'était par ordre chronologique. C'est le 166e groupe qui a été créé en France. Et il y avait donc Claude Braun qui était présent à cette création. Donc, bonjour Claude.
Bonjour Régis.
Peut-être tu pourrais nous dire... un petit peu te présenter là, peut-être que tout le monde te connaît, mais dire un peu comment ça s'était passé, cette création, ce qui vous animait à cette époque, et puis pourquoi tu as accepté de participer au spectacle du 25 janvier, de vendredi prochain, dont nous allons bien sûr parler tout à l'heure.
Alors, la première chose, je rendrai hommage à Pierre Magnan, qui est le vrai initiateur. Pierre Magnan est avocat à Digne, conseiller municipal, et je le connaissais parce que j'avais eu son fils en classe. On n'avait pas les mêmes opinions politiques, mais on s'entendait bien. Et il me dit en 1978, il faut créer un groupe d'Amnesty. Moi, je n'aurais pas le temps de m'en occuper, mais il faut qu'on lance la chose. Alors, il m'a contacté, il a contacté Pierre Riel, et je ne me souviens pas si c'est dès le départ ou pas, Françoise Fine, puisque son mari travaillait tribunal et n'avait pas le temps de s'en occuper. Et c'est comme ça que le groupe a été créé à Digne, donc dans le courant 1978. On continue.
Oui, oui.
On continue.
Oui, oui. Donc, oui.
Bon, donc il y a eu un noyau qui s'est formé, un noyau de fidèles, et puis un jour, il y a un jeune instituteur qui est arrivé, qui a fait partie du groupe et qui maintenant est à côté de moi, c'est Régis.
Oui, en effet, moi j'ai dû arriver dans le groupe en 1982. En 81, j'étais à Vols, donc je suis allé au groupe de Manosque. Et en 82, je me souviens donc très bien de la présence de Claude quand je suis arrivé. Il y avait Françoise Fine. Il y avait Pierre Riel aussi, je me souviens bien de lui. Non, Philippe Magnan n'était plus là, mais il y avait un groupe chaleureux et de suite, je me suis bien intégré à ce groupe. Et puis, bon, je suis toujours là. Voilà, alors, Claude, peut-être deux mots sur les poèmes que tu vas lire.
Alors... une dernière précision, parce que j'ai fait longtemps partie du groupe de Digne. Après, j'ai arrêté, peut-être un peu par usure, et aussi parce que alors je ne me rappelle pas la date, mais à la conférence de Durban, Amnesty avait pris des positions influencées par certains pays, des positions politiques que je n'approuvais pas. Et donc, je suis resté sympathisant, mais pas membre. Mais étant sympathisant, c'est pour ça aussi que je me retrouve au spectacle de vendredi.
Voilà. Alors, ce spectacle, c'est pour les 70 ans donc, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, il y a 70 ans, dans un monde marqué par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et une guerre froide qui s'installe de façon forte avec le coup de Prague et le blocus de Berlin, la toute jeune Organisation mondiale des Nations unies parvenait à faire adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était à Paris, au palais de Chaillot, le 10 décembre 1948, une date qui est désormais la Journée internationale des droits de l'homme.
Je peux t'interrompre une seconde ?
Bien sûr.
À cette occasion, je pense qu'il faut évoquer le nom d'Henri Laugier, le Basalpin, qui a fait partie de ceux qui ont travaillé à la rédaction de ce texte, et puis de René Cassin, dont une rue de Digne porte le nom.
Oui. Et pour la première fois, donc, le monde s'entendait pour définir ce qui est commun à chaque être humain, sans exception, quelle que soit sa nationalité, son sexe, sa religion. Une aspiration commune à permettre à tous les êtres humains d'accéder à un niveau de vie plus élevé et de jouir d'une plus grande liberté. Le préambule de la Déclaration précise quel est l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et pour toutes les nations. Ces 30 articles énoncent en termes simples les droits civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels. Des droits qui permettent de vivre digne et libre. Traduit dans plus de 500 langues, la DUDH est la feuille de route pour l'humanité, un texte visionnaire qui nous rassemble toutes et tous. La force du texte est d'avoir affirmé son universalité, un universalisme qui a trait à sa conception, à ses destinataires et à son contenu. C'est en particulier René Cassin qui a défendu l'utilisation du terme « universel » et non pas « international » pour préciser que les rédacteurs de la Déclaration ne travaillaient pas pour les gouvernements, mais pour les peuples. À noter aussi que dans les personnes qui ont rédigé cette Déclaration, on dit beaucoup qu'elle était occidentale, il y avait aussi un Sud-Africain, il y avait un Chinois, il y avait un Américain du Sud, donc c'était quand même représentatif du monde, et c'est un beau texte qui, Amnesty, nous aide beaucoup pour justement demander inlassablement depuis très longtemps la libération, la fin de torture, voilà. Et donc c'est un texte qui pour nous est un peu primordial, on va dire, pour notre action.
En théorie, tous les pays qui sont membres de l'ONU se devraient de respecter le texte. Mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que ce texte, qui marque un progrès moral, est l'aboutissement d'un très long cheminement qui commence, à mon avis, au XIIIe siècle avec la Déclaration des droits en Angleterre, avec l'Habeas Corpus et le Bill of Rights en Angleterre. Donc, nous, en français, qui sommes facilement prétentieux, on considère toujours que c'est la Révolution française qui a tout débuté. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des racines antérieures. Et la Déclaration de 1789 n'était pas seulement, dans l'esprit des rédacteurs, réservée à la France. Ils y voyaient tout de même une sorte de projet universel.
Oui. Mais il manquait, bien sûr, la moitié de l'humanité, puisque c'était les droits de l'homme, mais vraiment, voilà. Pas l'homme en général, c'était l'homme ouais. Et non pas la femme.
Donc, il a fallu, 12e siècle, plus de 800 ans pour qu'il y ait un léger progrès dans au moins l'affirmation d'un idéal humaniste.
Il y avait eu aussi des textes dès l'Antiquité, en Europe et en Afrique, qui parlaient justement de droits de la personne. Voilà, donc on ne sait pas si cette déclaration serait à nouveau signée, si on devait la signer aujourd'hui, parce qu'il y a eu... Elle est toujours critiquée et remise en cause, et c'est une lutte permanente pour la faire respecter. Et alors nous, dans le groupe de Digne, on s'est dit, on va quand même la célébrer parce que le texte est beau et c'est bien de le faire connaître. Et donc, on a demandé un petit peu autour de nous à des artistes s'ils voulaient participer à cette soirée. Et beaucoup ont répondu présent. Donc, Claude Braun, en tant que poète. Il y aura aussi Jacques Lair et Philippe Martel qui vont chanter. Stéphanie Waller qui va aussi interpréter des chansons un petit peu surprises. Là, vous verrez, ça sera un petit peu la surprise de la soirée. En principe, Odile Frison doit participer aussi, accompagnée au piano par Marjorie Bourgois, qui est du Conservatoire de musique de Digne. Et puis, nous ont rejoint aussi un groupe du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Ce sont trois jeunes qui font du rock. Donc, il y a un bassiste, un guitariste et un batteur. Et ils s'appellent The Springs. Ils nous ont contactés parce qu'on intervient à Amnesty pour faire de l'éducation aux droits humains au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Et donc, ils se sont dit, mais nous aussi, on veut participer. Et ils ont même composé un morceau, musique et paroles, sur ce thème, chanté en anglais, parce qu'ils aiment bien l'anglais, ça va bien, et le rock aussi. Et voilà, donc ils seront avec nous pour cette soirée, et on est ravis, parce que c'est bien qu'il y ait la présence de jeunes. Il y aura aussi les jeunes, des jeunes collégiens et lycéens, qui vont lire les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout au long du spectacle, comme ça, à la fin du spectacle, elle aura été lue entièrement. À noter aussi que l'introduction de cette déclaration sera lue par la directrice du centre culturel, René Char, qui a tenu à participer elle-même sur scène. Ce n'est pas son habitude, mais pour nous et pour ce texte, elle a accepté de venir lire l'introduction de le préambule de la déclaration.
C'est Muriel Ivan.
Muriel Ivan, tout à fait. Voilà, donc beaucoup de gens nous ont rejoints. Alors la soirée va se dérouler ainsi. Trois parties, si vous voulez. À 18h30, première partie. Donc là, l'intérieur de la partie, vous aurez la surprise. Hein. On va mêler, donc, vous avez compris, chansons, poésie, lecture, sketch. Ensuite, à 20h, de 20h à 21h, il va y avoir l'entracte. Et là, dans le hall du centre culturel, il y aura un buffet que nous avons préparé, que nous préparons. Et puis aussi, et bien sûr, un stand d'Amnesty avec les pétitions, des renseignements, des informations. Une exposition de gravures réalisée par Cécile Nicolino et Marie-Dominique Blanc, membres d'Amnesty. Donc, elles ont fait des gravures spécialement sur les droits humains pour cette soirée. Et puis, des poèmes de Claude Braun qui seront affichés, toujours sur le thème, voilà. On reprendra à 21h jusqu'à 22h30 pour la deuxième partie du spectacle avec, donc, musique, chansons, sketch, poésie, lecture. Pour terminer donc la soirée à 22h30 et mettre à l'honneur ce magnifique texte des droits humains. Voilà, alors on va peut-être maintenant faire une plage musicale avec Bernard Lavillier qui chante avec Jeanne Chéral, L'espoir.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ces cahiers déchirés, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi,
le soleil se lève aussi,
le soleil. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, pour la noirceur du soleil,
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
oui, je voulais préciser que ce que Régis n'a pas dit, c'est que tous ceux qui vont participer à la soirée sont bénévoles, qu'on a beaucoup travaillé, mais travaillé dans la bonne humeur, et que ça a créé des liens d'amitié, ou plutôt renforcé des liens d'amitié.
Oui, on a fait plusieurs répétitions et en effet, au fur et à mesure, on a un peu affiné le spectacle, mieux enchaîné les uns les autres et participé. En fait, il va y avoir des interactions entre différents chanteurs, musiciens et le poète aussi. Voilà, on a essayé de créer un spectacle vivant.
Mais qui a été aussi un plaisir pour nous.
Oui, aussi. Alors, pour rester un peu dans l'optimisme, on a sélectionné un certain nombre de victoires des droits humains depuis la fin de la guerre jusqu'à nos jours. Alors, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Il n'y a pas que des victoires, mais on veut être positif ce soir. Et donc, on va parler. Donc, octobre 1945, création de l'Organisation des Nations Unies. Le terme « droit de l'homme » est mentionné à 7 reprises dans la charte fondatrice des Nations Unies, faisant de la promotion et de la protection des droits de l'homme un objectif primordial et un principe directeur de l'ONU.
On arrive à octobre 1946 jusqu'à novembre 1948, les premiers procès internationaux pour crimes contre l'humanité. Entre 1946 et 1948, on est après la Seconde Guerre mondiale, ont lieu les premiers procès internationaux pour crimes contre l'humanité. Donc, tout le monde connaît le procès de Nuremberg, octobre 1946, et moins connu, le procès de Tokyo en novembre 1948. ces procès vont avoir un rôle déterminant dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, en ce sens qu'ils reconnaissent pour la première fois la responsabilité pénale des individus devant celle des États. C'est-à-dire, c'est ne pas toujours dire « j'y suis pour rien, je n'ai fait qu'obéir à un ordre ».
Alors, le 9 décembre 1948, à la suite justement de ces procès, il manquait dans notre juridiction le crime de génocide. Il a été adopté le 9 décembre 1948, la Convention sur le crime de génocide. Cette convention acte en des termes juridiques l'existence de ce crime consistant en l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ensuite, fin 1948, le 10 décembre, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors nous, on l'a faite un petit peu en retard, simplement pour des raisons de disponibilité de la salle. C'est le texte fondateur, cette déclaration des principes est la principale source d'inspiration du droit international des droits de l'homme dans le monde depuis 70 ans.
Le 12 août 1949, Convention de Genève. Les quatre conventions de Genève visent à protéger les personnes qui ne participent pas aux hostilités dans le cadre d'un conflit armé. Par exemple, le fait de prendre délibérément des civils et des lieux d'éducation pour cible constitue un crime de guerre. Les conventions de Genève sont à la base du droit international humanitaire et ont été ratifiées par la quasi-totalité des États.
On arrive à 1950 avec la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, je vous lis le texte. Directement inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme est un traité signé par les États membres du Conseil de l'Europe. Cette convention vise à protéger les droits et les libertés fondamentales au niveau régional et prévoit un mécanisme de contrôle juridictionnel par une procédure de plainte. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, à ce jour, la France a été condamnée 6 fois pour pratiques inhumaines et dégradantes à l'encontre d'enfants enfermés en rétention. Pardon.
Mai 1954, novembre 1956, combat contre les lois ségrégationnistes aux États-Unis. Dans 2 arrêts historiques, en 1954 et en 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles et les transports publics. Le premier arrêt pris suite à des plaintes collectives déclare que la ségrégation dans l'éducation est inconstitutionnelle et qu'il doit y être mis fin. Dans le second arrêt, Rosa Parks, maire du mouvement des droits civiques aux États-Unis et figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale, refuse le 1er décembre 1955 à Montgomery, dans l'État d'Alabama, de céder sa place à un passager blanc. Martin Luther King lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui conduira à la décision de novembre 1956.
En 1960 est proclamée l'année de l'Afrique. 17 pays d'Afrique subsaharienne, dont 14 anciennes colonies françaises, acquièrent leur indépendance après de longues années de lutte pour le droit à l'autodétermination.
Mai 1961, c'est la fondation d'Amnesty International. L'avocat britannique Peter Benenson lance un appel à l'amnistie dans l'hebdomadaire The Observer. Le mouvement d'Amnesty International est né. Créé au départ pour obtenir la libération des prisonniers d'opinion, le mouvement développe de plus en plus le champ de sa mission, qui couvre aujourd'hui la globalité des droits humains.
En 1963, a lieu la libération de Joseph Slipy, archevêque ukrainien. Il est relâché après 18 ans, après avoir été enfermé 18 ans dans divers goulags. C'est le premier prisonnier d'opinion soutenu par Amnesty International qui est libéré.
1963, libération du cardinal Béran, dénonciateur des restrictions de liberté des droits civiques et religieux, est libéré après 12 ans d'emprisonnement à Prague. Il allume une bougie en remerciement à Amnesty International lors d'une cérémonie à Rome.
Le 20 novembre 1973, Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud est dénoncé et reconnu comme un crime contre l'humanité.
19 juin 1975, 2 juillet 1975, première conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes au Mexique. 1975 est une année charnière pour le droit des femmes avec la première conférence mondiale des Nations Unies et la mise en œuvre de la décennie pour les femmes, 76-1985, qui comprend notamment la rédaction de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
En 1977, proclamation du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La journée du 8 mars est proclamée par l'ONU, journée internationale des femmes, pour célébrer la lutte historique pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. On pense évidemment aux suffragettes et à beaucoup d'autres avant.
10 décembre 1977, après l'attribution du prix Nobel de la paix au président d'Amnesty International, Shane McBride, pour le travail contre la torture en 1974, c'est au tour d'Amnesty International de recevoir le prix Nobel en reconnaissance de sa contribution à la défense des droits de la personne.
Alors on passe à 1981, mais auparavant on rappelle qu'en 1978 a été créée la section de Digne. En 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée par le 27 juin 1981 au Kenya. Entrée en vigueur en 1986, elle s'appuie sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Son préambule indique qu'elle tient compte des vertus de leur tradition historique et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leur réflexion sur la conception des droits de l'homme et des peuples.
1984, adoption de la Convention contre la torture et haute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cette convention est un instrument essentiel dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Son adoption est le fruit d'années de campagne et de plaidoyer d'organisations de la société civile et en premier lieu d'Amnesty International. Amnesty lance sa première campagne contre la torture en 1972. L'année suivante, l'ONU adopte à l'unanimité une résolution inspirée par Amnesty International qui dénonce la torture. En 1984, Amnesty International lance sa deuxième campagne contre la torture qui contribuera à l'adoption de la Convention au cours de la même année.
1989, c'est la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin est un des événements marquants du XXe siècle. La disparition des antagonismes permet d'amorcer un rôle croissant pour les organisations de la société civile de défense des droits de l'homme.
1990, libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Le président d'Afrique du Sud, De Klerk, annonce la levée de l'interdiction du Congrès national africain, parti politique dont Nelson Mandela deviendra président par la suite, ainsi que de plusieurs autres organisations anti-apartheid. Il ordonne également la libération sans condition de Nelson Mandela après 27 ans, 6 mois et 6 jours d'emprisonnement.
Janvier 1993, libération de Vera Tshirwa au Malawi. En 1993, Vera Shirva, première femme avocate au Malawi et défenseur des droits humains, sort de prison au bout de 12 années dans les couloirs de la mort. Après Mandela, une autre prisonnière d'opinion de longue durée est libérée sur le continent africain.
25 mai 1993, création du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Sur le fondement du chapitre 7 de la Charte de l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations unies crée ce tribunal ad hoc, basé à La Haye, pour juger les crimes internationaux commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
En novembre 1994, est créé le Tribunal international pour le Rwanda. Après le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité de l'ONU met en place un deuxième tribunal ad hoc, le Tribunal international pour le Rwanda, basé à Arusha, en Tanzanie, et chargé de juger les crimes commis sur le territoire du Rwanda ou par des citoyens rwandais sur le territoire d'États voisins en 1994 pendant la guerre civile. Ce tribunal, tout comme celui pour l'ex-Yougoslavie, poursuit les individus et non les États.
En 1998, le maire rwandais Jean-Paul Akayesu est condamné par le Tribunal international pour le Rwanda, entre autres choses, pour incitation à des viols collectifs. Dans sa décision, la Chambre définit le viol comme étant une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'emprise de la contrainte. Cette décision représente un tournant dans la reconnaissance de la violence sexuelle lors des conflits armés. Le viol comme arme de guerre.
2002, entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. Adoptée en 1998, le statut de Rome établissant la Cour pénale internationale entre en vigueur en 2002 après avoir été ratifié par 60 États. Ce tribunal permanent est compétent pour juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides à l'encontre des nationaux des États parties et des crimes commis sur le territoire des États parties. Ces crimes sont imprescriptibles et la fonction officielle des personnes mises en cause n'exonère pas la responsabilité de l'individu. La Cour pénale internationale est basée à La Haye, aux Pays-Bas.
2006, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Cette convention marque un tournant dans la reconnaissance du crime complexe de disparition forcée, un crime jusqu'alors peu reconnu en droit international. La France jouera un rôle déterminant dans la rédaction et l'adoption de cette convention.
Merci.
Dans le cadre du conflit armé en cours en Syrie depuis 2011, plus de 65 000 personnes ont disparu aux mains du gouvernement syrien et des groupes armés impliqués dans les combats. En 2016, des femmes syriennes ont créé le groupe Families for Freedom, qui cherche à obtenir une solidarité afin de faire pression pour que le gouvernement syrien et les groupes armés révèlent ce qu'il est advenu de leurs proches. Ces associations de disparus mènent d'inlassables combats, que ce soit en Algérie, au Yémen ou en Syrie, ou ailleurs, pour reconnaître le sort de leurs proches.
Octobre 2007, un Yéménite de 16 ans échappe à la peine de mort grâce à la mobilisation d'Amnesty International. Hafez Ibrahim, Yéménite arrêté à l'âge de 16 ans, est condamné à la peine de mort. La mobilisation internationale orchestrée par Amnesty International lui évitera l'exécution capitale. Ibrahim sera libéré peu de temps après. Je me sens encore comme dans un rêve. Amnesty m'a sauvé la vie.
2011, adoption des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies adopte des principes visant à prévenir et combattre le risque d'incidence négative sur les droits humains liés à l'activité des entreprises, sur la base du cadre de référence protéger, respecter et réparer.
Mars 2012, premier verdict rendu par la Cour pénale internationale. Le 14 mars 2012, Thomas Lubanga est déclaré coupable des crimes de guerre consistant en l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et de les avoir fait participer directement à des hostilités, ce qu'on appelle les enfants soldats, en République démocratique du Congo. Ces crimes sont confirmés par la Chambre d'appel en décembre 2014. La participation des victimes devant la Cour pénale internationale est l'une des principales innovations de ce tribunal.
2014, le traité sur le commerce des armes classiques est adopté par les Nations Unies et entre en vigueur en 2014. Il vise notamment à arrêter la circulation d'armes à destination de pays où l'on sait qu'elle servirait à commettre ou à faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité ou d'autres atteintes graves aux droits humains. Amnesty International s'est mobilisé pendant plus de 20 ans en faveur de cette réglementation.
Février 2016, libération d'Aber Woodflox, le dernier des trois d'Angola. Ceux qu'on appelle les trois d'Angola, du nom de la prison d'État de Louisiane, dans laquelle ils étaient détenus, sont trois prisonniers américains accusés du meurtre d'un surveillant de prison en 1972. Albert Woodflox a passé 44 ans de sa vie, entre avril 1972 et février 2016, en détention à l'isolement. Il détient ainsi le record de longévité à l'isolement des États-Unis. Il sera libéré en 2015 après une longue campagne de mobilisation d'Amnesty International. Woodflox est le dernier des trois à sortir de prison. Herman Wallace avait été libéré le 2 octobre 2013 après 41 ans de détention à l'isolement. Rongé par un cancer, il décédera 3 jours après sa libération. Robert King avait été libéré en 2001 après 31 ans de détention à l'isolement. À sa sortie, il était devenu le porte-voix et le fer de lance de la campagne pour la libération de ses deux camarades et pour la fin de la détention à l'isolement prolongé aux États-Unis.
27 mars 2017, France, adoption de la loi relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Après donc plusieurs années de plaidoyer, la France adopte cette première loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre. Cette loi oblige les grandes entreprises à identifier et prévenir les risques pour les droits humains et l'environnement liés à leur activité tout au long de leur chaîne d'approvisionnement.
Juin 2018, l'entreprise française Lafargue est mise en examen pour complicité dans des crimes contre l'humanité en Syrie. En 2018, l'entreprise française Lafargue est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. La filiale du cimentier franco-suisse Lafargue Holcim a été mise en examen le 28 juin dans l'enquête sur des soupçons de financement du terrorisme.
Voilà donc quelques exemples de victoires pour les droits humains. Il y en a beaucoup d'autres.
Alors on vous disait que les droits humains, c'était une longue histoire, c'est un petit peu pour ça qu'on vous a lu ce long résumé.
Oui.
Et que ce n'est pas fini.
Et ce n'est pas fini. Donc voilà, on obtient des victoires et c'est pour ça que c'est important de nous rejoindre, ceux qui le désirent. On va mettre maintenant un petit morceau de musique, La Viva, Écrire pour toi.
Thank you.
Voilà, alors la situation qui est faite aux migrants de nos jours montre bien que les droits humains ne sont pas respectés partout et par tous. Aux États-Unis, vous avez en ce moment sur le site d'amnesty.fr une pétition pour demander à la secrétaire du département de la sécurité du territoire de cesser d'enfermer et de séparer les demandeurs d'asile. Notamment mettre un terme définitif à cette pratique de séparer les familles, ce qui cause des souffrances extrêmes, notamment aux enfants. Hein. Et c'est considéré comme des mauvais traitements qui atteint parfois la torture. En Europe, le système est défaillant. Il y a une crise des réfugiés, mais il y a aussi, et surtout, d'après Amnesty, une crise de l'accueil des réfugiés, qui fait que les États d'Europe sous-traitent le contrôle des frontières à des pays comme la Libye, qui sont des pays où on sait très bien qu'il y a de la torture, il y a même de l'esclavage, de la vente d'esclaves, comme on a vu. Et il y a toujours des gens qui meurent en mer par centaines, par milliers, et tout récemment, hein, puisque il y a 4 jours, le mercredi 16 janvier, ce sont 52 jeunes Mauritaniens qui se sont noyés entre le Maroc et l'Espagne. Et puis hier, il y a une centaine de personnes qui se sont qu'on a retrouvé noyé sur les côtes libyennes. Donc la situation est vraiment dramatique et il y a des personnes en danger. Et il serait grand temps que l'Europe prenne des mesures pour assurer la sécurité de ces personnes, arrête d'entraver les bateaux qui veulent leur porter secours, parce que c'est inhumain et les droits fondamentaux, ça ne se discute pas, c'est pas en fonction des moyens, c'est vous avez des personnes en danger de mort et notre devoir c'est de les sauver. Alors on est en lien très fort avec une association mauritanienne qui lutte contre l'esclavage qui se maintient toujours en Mauritanie et pour les droits humains, le respect des droits humains dans ce pays. Et donc voici le communiqué de condoléances qu'a rédigé cette association de défense des esclaves et de protection des droits humains en Mauritanie. Donc, ce mercredi 16 janvier, les médias ont fait état d'un drame. Il s'agit du naufrage d'une embarcation de fortune dans les eaux maritimes entre le Maroc et l'Espagne. Cet accident a causé la mort de 52 jeunes Mauritaniens, dont une femme. Que la désolation a s'imaginer ces jeunes gens bien conscients qui prennent des risques énormes, au péril de leur jeune vie, pour rejoindre l'Europe par la traversée de l'océan. Ces jeunes sont partis fuyant la misère et l'absence de perspective pour eux en Mauritanie. À cette douloureuse occasion, se joignant à l'élan de compassion générale, nous présentons nos sincères condoléances à l'ensemble du peuple mauritanien, aux proches des familles éplorées des disparus. Nous lançons un appel aux potentiels candidats à l'immigration clandestine à s'abstenir d'essayer de rejoindre l'Europe par des voies irrégulières et à haut risque et à se fixer des objectifs réalistes au pays. Et nous rendons les autorités mauritaniennes responsables de la situation lamentable dans laquelle se trouve la jeunesse du pays. Et nous les appelons à plus de responsabilité face aux problématiques des jeunes, car en effet, dans ce pays, règne un apartheid sur les Noirs mauritaniens au profit des Arabo-Berbères qui détiennent tous les pouvoirs et tous les postes importants. Et donc, ces jeunes sont souvent désespérés et essayent de rejoindre l'Europe. Donc, c'est une association, bien sûr, qui essaye de les retenir pour créer la Mauritanie de demain. Voilà, donc, voilà, je tenais à reparler de la situation des migrants qui est toujours difficile et qui nous interpelle. On va maintenant passer une musique, à nouveau Lavilliers, Croisière méditerranéenne.
Venu des hauts plateaux, incendié par la guerre, écrasé de soleil. Les fourmis silencieuses, fouettées par la poussière, dévorées par le sel. On avait tous un jour imaginé la mer et la douceur du vent. Et dans cette nuit noire, qu'on a payé si cher, on coule en dérivant. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murènes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, des vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. On est venu de loin, plus loin que tes repères, à des millions de pas. On est venu à pied, du fond de la misère, ne nous arrête pas. Retourne à la maison, et si j'en avais une, je ne serais pas là. Et la mer engloutit dans un rouleau d'écume, mon chant et puis ma voix. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer. Imaginez la mer. Nous dormons dans des villes, ombres parmi les ombres, des longs couteaux tirés à deux doigts de l'Europe. On a rêvé si fort, on commence à douter. Tu es resté debout devant les barbelés, sous le ciel minéral. Tu commences à ramper en dessous du silence et dans l'oubli total. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, et vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Et maintenant, un poème lu, écrit par Claude Brun.
Alors là, il ne s'agit pas d'imaginer la mer, mais d'imaginer un prisonnier qui reçoit une lettre. Ni les murs sans le soleil, ni le ciel aux barreaux, ni le chant rauque de la porte sans mémoire n'ont éteint au regard, perdu comme une lampe au champ illimité. Et brisant le silence, tu sors la flamme étrange, la page où fut gravé l'horizon d'un murmure. Et ton regard s'envole vers l'inconnu lointain qui sème des printemps. Le gardien étonné penche parfois la tête. Un peu de ciel, alors, habille ta cellule où ton regard s'allume comme un destin d'eau vive que rien ne ternira. Le seuil s'est éclairci, peut-être était-ce l'aube ou dans tes yeux fermés seulement une étoile, car ton regard demeure et dit à l'univers l'éclair d'un mot perdu.
Voilà, très beau poème qui illustre bien l'espoir que peut donner les lettres écrites par Amnesty International pour ces prisonniers oubliés. Je vais vous passer maintenant un disque qui s'appelle, une chanson qui s'appelle Pays Sauvage d'Émilie Loiseau. Alors pourquoi cette chanson maintenant? Parce que hier, Émilie Loiseau, avec Cyril Dion, le réalisateur du film Demain, a tourné un clip avec les membres du département qui se réunissent tous les premiers vendredis de chaque mois sous le titre « Nous voulons des coquelicots », c'est-à-dire la lutte contre les pesticides. Et cette lutte, en fait, rejoint les droits humains puisque le droit à la santé est un des droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc voilà, on a ce besoin d'avoir une nourriture saine, une terre qui retrouve la vie, et c'est capital pour tout le monde. Alors on va écouter cette chanson d'Émilie Loiseau, Pays Sauvage. Et puis ceux qui sont intéressés par Nous voulons des coquelicots, le vendredi 1er février à 18h30 au kiosque à musique, c'est le rendez-vous mensuel, tous les premiers vendredis de chaque mois devant les mairies à 18h30.
Te souviens-tu du pays des oiseaux? Tu sais, celui où il fait toujours beau. On dit qu'il n'existe plus, on dit qu'il a disparu. Et dans mes songes, je gravis des montagnes. De toi, mais il est mort, il est froid. Du bout des doigts, je caresse la vase. Dieu qu'il était émouvant ce mirage. J'ai entendu le cri du vent et j'ai pleuré doucement. Sous la vague, tout se casse. Dis-moi ce qu'il se passe. Je le trouvais si beau, notre pays là-haut. Te souviens-tu du pays des oiseaux? Quand je m'endors, il est fini le temps des rivières d'or. Où tu disais mon trésor, il faudra vivre sans toi. Les orages ont balayé la plage. Il ne reste plus qu'un pays sauvage.
Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. Avant de vous rappeler les activités du groupe, on dédie, Claude et moi, cette émission à Odile Frison, qui est dans la peine actuellement. Donc, je vous rappelle notre soirée, vendredi 25 janvier, donc vendredi prochain, de 18h30 à 22h30. Venez avec nous fêter les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous assisterez à un spectacle de bénévoles, d'artistes bénévoles, avec des chansons, du rock, de la poésie, des lectures. Il y aura un buffet à l'entracte avec des informations sur Amnesty, une exposition de gravures réalisée dans le cadre des droits humains. Voilà, ce sera la fête des droits humains. Donc, venez nombreux à cette soirée dédiée à ce beau texte. Je vous rappelle la date, vendredi 25 janvier de 18h30 à 22h30.
L'entrée est évidemment gratuite.
L'entrée est gratuite, entrée libre. Donc, vous ferez une participation que vous voulez. Voilà, donc c'est bien au centre René Char, centre culturel René Char à Digne-les-Bains. Voilà, et puis autre information, s'il y a des personnes qui veulent voir un peu comment fonctionne le groupe d'Amnesty, vous êtes invités à notre prochaine réunion, ce sera le mardi 29 janvier à 18h, dans les salles des associations qui sont à côté de la mairie. Et on fera le tirage de ce que nous appelons la galette des droits. voilà, pour que ça reste très convivial. Nos actions sont souvent difficiles, mais tout est convivial. Voilà, donc n'oubliez pas cette date, vendredi 25 janvier, spectacle au Centre René Char. Et on termine par une chanson, La Viva, qui est une chorale qui a été faite pour les droits humains. Ça s'appelle « On est venu comme vous ».
Fréquence Mistral, ma radio, mon pays, 99.3 pour Digne-les-Bains.